Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bac FM. C'est Victor et ma camarade Amélie.
Bonjour à tous.
Qui vous parle. Dans le cadre de notre enseignement de spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques, nous avons aujourd'hui l'honneur d'interviewer l'ancien ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Lionel Jospin, M. Hubert Védrine. Bonjour M. Védrine. Comme nous l'avons dit juste avant, vous avez été ministre des Affaires étrangères, mais aussi conseiller diplomatique sous Mitterrand, ainsi que secrétaire et porte-parole de la présidence de la République française.
Et donc, grâce à toutes ces fonctions exercées, vous avez accumulé de nombreuses connaissances que vous ne cherchez pas à garder pour vous. Au contraire, vous transmettez votre savoir à travers l'écriture, notamment. En effet, vous avez co-réalisé avec Pascal Boniface l'Atlas des crises et des conflits, ou encore l'Atlas du monde global, mais aussi vous transmettez à travers les médias. Donc, en effet, chers auditeurs, vous avez sûrement entendu notre invité dans les matins de France Culture, puisque jusqu'en 2016, il animait sa propre rubrique « Le monde selon Hubert Védrine ».
Monsieur Védrine, nous allons passer aux questions. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici, à Nevers, au lycée Raoul Follereau, nous avons un atelier Sciences Po Paris.
Et donc, justement, vous connaissez Sciences Po Paris, et donc nous aimerions vous demander quel a été votre parcours pour arriver à exercer ces fonctions de ministre, et quelle orientation conseilleriez-vous pour exercer une fonction ministérielle?
Alors, ce sont deux questions tout à fait différentes, et je ne suis pas sûr que je sois un bon exemple, s'il y a beaucoup de hasards heureux de la vie dans mon parcours. Moi, j'ai fait des études secondaires, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait une licence d'histoire, et après je suis présenté à l'ENA, je suis entré à l'ENA. À la sortie de l'ENA, j'étais au ministère de la Culture. Ensuite, j'ai fait ma mobilité, comme on dit dans le jargon des énarques, aux affaires étrangères. Et François Mitterrand, pour des raisons trop longues à raconter ici, m'a donné une chance incroyable en m'appelant auprès de lui en 81 comme conseiller technique, et je suis devenu le conseiller diplomatique. Alors, il y a des tas de raisons, je ne vais pas raconter ma vie là, mais c'est-à-dire qu'après, j'ai énormément appris, et je dois immensément de choses à Mitterrand. Et toute ma vie, j'ai appris de 80 à 95, en étant auprès de lui, comme conseiller diplomatique, puis porte-parole, puis secrétaire général. Et j'ai connu les deux premières cohabitations, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur. Et après, j'étais rappelé, 2 ans après 95, donc en 97, par Lionel Jospin, quand il a constitué son gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac. Et là, je suis devenu ministre des Affaires étrangères, et fonction que j'ai exercée pendant 5 ans. Donc c'est un savoir. Il y a un peu de savoir à l'origine, au sens livresque, hein, au sens Sciences Po, vous savez. Et beaucoup de voyages. J'étais un peu routard au début de ma vie. J'étais en voiture en Afghanistan, par exemple. Donc je me suis beaucoup baladé. Et après, j'ai appris sur le tas. Mais le tas étant la vie d'un président, les sommets, les voyages, des choses comme ça. Donc tout ça est accumulé. Ce qui veut dire que quand je suis devenu ministre en 97, j'avais déjà une énorme expérience avant.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas évident si on fait ça du jour au lendemain, vous voyez.
Oui,
donc c'est pas facile d'en tirer des leçons, mais je pense qu'il faut, aujourd'hui dans vos générations, il faut combiner la meilleure formation initiale possible, surtout dans une époque où vous êtes menacé par la submersion numérique. Donc il faut avoir une capacité de tri, de détection, pour hiérarchiser, qui doit être considérable, beaucoup plus que dans les générations d'avant. Et après, il faut, à mon avis, si vous me posez la question, tout faire pour ne pas réagir que comme un Français ou un Européen, auto-centré, en sachant que quand même le monde est vaste, et comme l'a écrit très bien un ancien secrétaire général du Quai d'Orsay il n'y a pas longtemps, Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Mais nous, on pense qu'on a raison et que moralement, on est mieux. Mais ils ne pensent pas comme nous. Je ne dis pas qu'il faut changer nos idées. Donc il faut très vite, très tôt, mais c'est déjà le cas pour vous, intégrer cette dimension de variété.
D'accord, merci pour votre réponse. Maintenant, si on regarde justement la population française, on note un désintérêt croissant à la politique. Et donc, nous avons une question par rapport à cela.
Et donc, par exemple, pour donner goût à la politique aux Français, est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste la profession de ministre?
Mais je ne sais pas si ça va leur redonner goût.
Pour leur présenter votre quotidien, le meilleur de votre quotidien.
Oui, mais c'est très ingrat comme fonction, en fait. C'est très ingrat parce que c'est des emplois du temps prédéterminés. Il y a des tas de rencontres obligatoires, le conseil des ministres, les commissions parlementaires, les questions d'actualité, des voyages programmés. À la limite, il n'y a quasiment aucun espace personnel. Il faut se battre pour garder un temps de respiration, un temps de privé, un temps de lecture, des choses comme ça. Donc c'est un job très dur en fait. Et c'est d'autant plus dur dans les démocraties modernes qu'elles sont sous le coup de l'information continue, elles-mêmes sous l'influence des réseaux numériques, qui sont des systèmes de harcèlement. Où il peut y avoir des pépites, des choses intéressantes, géniales, et puis énormément de scories et de choses violentes. Donc un ministre, il doit essayer de... Enfin, il ne doit pas essayer, il doit avoir, pardon, une idée claire sur ce qu'il doit faire, ce qu'on attend de lui, ce que veut le président et le premier ministre, et puis s'y atteler. Mais il va être submergé chaque jour par toutes sortes de revendications, récriminations, protestations, ceci, cela. Mais c'est comme un bateau avec des vents contraires, vous voyez. Oui. Donc je ne suis pas sûr que ça attire tellement les gens, ma réponse. Mais il faut, je crois, puisque c'est le fond de la question, il faut, disons, restaurer la démocratie représentative. Pour ça, il faut qu'elle soit accompagnée, non pas de démocratie directe, sinon on va tuer la démocratie représentative, mais une démocratie consultative très active. Et ça, il faut le faire en permanence. Et surtout, il faut que la démocratie fonctionne, donne des résultats. Parce que si elle se perd dans des consultations sans fin, plus les surenchères judiciaires et je ne sais quoi, qu'à la fin des fins, il n'y a pas de décision que les gens voient, c'est très dangereux. Les gens diront, finalement, tout ça, c'est un théâtre qui n'aboutit à rien. Oui. Vous voyez, c'est très loin de la fonction de ministre.
Oui. Maintenant, vu qu'on a compris que vous avez un emploi du temps très chargé, vous avez sûrement rencontré des personnalités ou fait de grandes choses. Et donc, est-ce que vous avez quelques petites anecdotes pour nos auditeurs sur des personnalités marquantes que vous avez rencontrées ou des événements que vous avez vécus?
J'ai rencontré toutes les personnalités dominantes du monde des 30 dernières années. Mais pour moi, la personnalité la plus marquante, c'est Mitterrand. Bon, alors on va penser que c'est pas à cause de mon parcours avec lui. C'est la moitié de ma vie, quoi. Mais c'est vrai en vrai. C'est-à-dire que Mitterrand avait un ascendant incroyable et ça se voyait partout dans le monde. Il n'y a pas que Mitterrand, les gens. Dans le monde entier, les dirigeants aimaient beaucoup Jacques Chirac, par exemple. Mais Mitterrand les impressionnait. Donc c'est un peu différent. Alors, il est arrivé qu'on... Pour répondre à votre question, il y a des cas où on voit des gens. Ils ont l'air tout à fait comme tout le monde, mais on se dit, cette personne a entre les mains le sort d'un pays entier. Une décision colossale. Deng Xiaoping. J'étais preneur de notes entre Mitterrand et Deng Xiaoping. Vous vous rendez compte? Ce petit monsieur dans son fauteuil chinois, qui crachait comme les Chinois d'autrefois. C'est bien, parce qu'il avait un crachoir, il visait juste. Bon. Et on se dit, mais ce petit monsieur-là, il a entre les mains l'avenir de la Chine, ce géant. Vous voyez, ça fait rêver, quoi. Gorbatchev, qui était un brave homme avec des tas de bonnes intentions irréalisables sur le fait de moderniser l'URSS, démocratiser, sauver le communisme. Et on se disait, cet homme qui est attachant, qui est sympa, qui est assez affectif en même temps, quel est le poids sur lui? Mais il y a d'autres cas. J'ai vu, par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela arriver. Alors c'est peut-être qu'on projette sur Mandela quand on sait ce qu'il est, mais il donne l'impression de marcher sur les eaux, en fait, de flotter comme ça. C'est incroyable physiquement. Une autre fois, je suis à l'Élysée avec Mitterrand, et on reçoit le Dalai Lama dans les appartements privés, pour ne pas faire un drame avec la Chine, mais le recevoir quand même, pour marquer le coup. Le Dalai Lama arrive, il y avait une interprète forcément, avec une écharpe blanche. Il donne l'écharpe blanche à Mitterrand, qui le remercie, et il dit au Dalai Lama, je vous remercie, c'est un symbole de quoi? Alors l'autre lui dit, c'est un symbole de vie éternelle. Alors Mitterrand se tourne vers moi, il me dit, j'espère que ça marche. Bon, sur la... Puis ailleurs, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Merci de nous avoir partagé ces quelques anecdotes.
Bon, et dernière question. Récemment, il y a 2-3 années, vous avez été nommé par Emmanuel Macron pour faire partie d'un comité de 10 personnalités pour réfléchir à l'avenir de l'OTAN en 2030, si je ne me trompe pas.
Et aujourd'hui, l'OTAN est vraiment au cœur des discussions, notamment avec le contexte de la guerre en Ukraine. Pour vous, quelles sont les perspectives d'avenir de l'OTAN? Et aujourd'hui, avec le contexte géopolitique, pouvons-nous parler de seconde guerre froide ou tout simplement d'une poursuite de la guerre froide après une période de relâchement?
Alors, on n'est déjà pas dans la guerre froide, parce que la guerre froide est restée froide. Elle n'a pas éclaté. Là, il y a une vraie guerre. Mais sur l'OTAN, je crois qu'il est utile de rappeler l'origine. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains qui avaient gagné contre Hitler, il y a les Soviétiques et les Américains, ils ont battu Hitler, ils sont repartis. les Européens s'inquiètent. Parce que l'URSS de Staline avance ses pions. Donc ils se sentent menacés, les Européens de l'Ouest. Ils demandent aux Américains de revenir, dès 46-47, pour les protéger. L'Américain dit, non, ça va, on est rentré. Les Européens supplient les Américains, qui finissent par accepter de signer une alliance, ce qu'ils n'avaient jamais fait dans leur histoire. C'est à la demande des Européens. Et il y a un article 5 qui impose de se porter au secours d'un allié attaqué. Donc l'accord est signé grâce au président Truman. Mais Staline continue à avancer. Donc les Européens disent, on est vraiment en danger, ils ne sont pas loin. Et vous avez signé le traité, mais vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut revenir. Les Américains se font prier et ils reviennent. Donc ça donne le haut de OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc les Américains s'installent avec des bases et ils contrôlent tout à la demande des Européens, qui les remercient de prendre en charge la sécurité. Ça vous paraît lointain, mais le temps a passé. Dans la tête des Européens, c'est toujours ça en fait. Les Européens pensent que leur sécurité est assurée par l'engagement des États-Unis dans l'Alliance Atlantique. Et quand le président Macron m'a demandé hier, à la fin de la présidence Trump, dernier semestre, de faire partie d'un groupe de réflexion sur l'avenir de l'OTAN. On était 10, mais on a auditionné les 30 ministres et beaucoup de choses. Je me suis rendu compte à l'époque qu'aucun pays européen ne soutenait l'idée d'autonomie stratégique, au sens vrai, autonomie. Parce que pour eux, ça voulait dire coupure. Et en gros, ils disaient, mais on ne peut pas se défendre sans les Américains. Donc on veut bien développer des efforts en Europe, on veut bien s'affirmer, créer une sorte de pilier européen un jour, mais on ne peut pas couper. Donc déjà, il y avait une distorsion, alors que c'était l'époque où Trump lui-même exprimait des doutes sur l'Alliance Atlantique, et donc les Européens auraient dû en profiter en disant, puisqu'on n'est plus tout à fait sûr des États-Unis, il faut qu'on s'organise mieux entre nous. Mais même là, ils avaient un peu peur d'eux-mêmes.
Okay.
Alors maintenant, étant donné que l'attaque de Poutine, tout le système européen est à nouveau otanisé, on va dire. Donc l'Europe n'avait pas de compétences en matière de défense de par les traités, mais il y avait la vague idée à la française qu'un jour, il y aurait une Europe de la défense. Ce n'est pas le cas là maintenant. Là, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui gère le truc à la demande de tous les Européens. Donc il n'y a plus de place dans l'immédiat pour les idées à la française. En revanche, avec le temps qui passe, avec l'Allemagne qui va refaire une armée, le Pologne qui a une grosse armée, l'Ukraine qui sera à moitié dedans, des choses comme ça, il peut y avoir une autre phase, mais pas tout de suite, dans lequel certains diront, après l'idée française que les Européens s'affirment dans l'Alliance à travers un pilier européen, mais dans l'Alliance, en liaison avec les... Elle risque de revenir après. Mais au jour où nous parlons, ce n'est pas le cas du tout. On est plutôt dans l'inverse, là. Donc l'Alliance a un vrai avenir devant elle. Et inévitablement, il faudra que les Européens y jouent un rôle plus grand. Mais là, ce n'est pas tout à fait tout de suite, contrairement à ce que les Français avaient espéré souvent.
D'accord. Bien, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour répondre à nos questions. Et on vous souhaite une bonne continuation et merci.
Merci beaucoup, Monsieur Védrine.
C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps.
Au revoir.
Au revoir.